VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, se réunissent aujourd'hui à Lomé pour discuter de la crise politique qui secoue le Togo depuis près d'un an, après des mois de négociations au point mort entre pouvoir et opposition. Officiellement, l'intitulé du programme de ce mardi est la situation sociopolitique et économique de la sous-région d'Afrique de l'Ouest, mais les discussions devraient porter essentiellement sur la crise togolaise, ainsi que sur la situation politique en Guinée-Bissau et faire le point sur l'élection présidentielle au Mali qui s'est déroulée ce week-end. La commission électorale du Zimbabwe, la ZEC, a affirmé aujourd'hui que les élections, les premières depuis la chute du président Robert Mugabe, n'avaient été entachées d'aucune fraude. Les résultats officiels des élections présidentielles, législatives et municipales qui se jouent essentiellement entre la ZANU-PF, le parti aux commandes depuis 1980, et le Mouvement pour le changement démocratique, MDC, n'ont pas encore été annoncés. Les deux principaux candidats à la présidentielle au Zimbabwe, le chef de l'État Emmerson Mnangagwa et l'opposant Nelson Chamisa, se sont dit confiants dans leur victoire. M. Chamisa, le jeune patron du MDC, a même revendiqué dès ce matin une victoire éclatante. Rapidement, M. Mnangagwa, patron de la ZANU-PF et ancien bras droit de M. Mugabe, lui a répondu en sous-entendant qu'il menait lui aussi la course. Au Mali, retour donc sur le Mali, le dépouillement des bulletins de vote se poursuit après le premier tour dimanche de l'élection présidentielle. Les observateurs déplorent les différents incidents qui se sont produits, de même que ceux qu'ils appellent des dysfonctionnements et insuffisances. 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. À Bamako, retrouvons notre envoyé spécial, Jacques Aristide.
Les Maliens sont donc dans l'attente alors que se poursuit le décompte des voix. Les militants des candidats à la présidentielle, comme ici au QG de campagne du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, sont eux aussi impatients. La confiance est toutefois de mise. Kansoutou Sidibé est membre de l'équipe de campagne.
Oh que oui, je suis confiante. Parce que j'ai confiance en mon président et je sais ce qu'il vaut et ce qu'il a fait dans le pays. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et les Maliens savent, avec tous ceux qui sont allés dire en Europe, dire que le président ne travaille pas, j'ai confiance en Ibeka. Et je sais que les Maliens aussi, ils ont confiance en cet homme.
À deux pas d'ici, même ambiance, bon enfant, les militants et partisans du candidat Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, affichent la même confiance. Nuhum Togo est directeur de communication de l'équipe de campagne.
Vous avez la confiance que nous entoure, c'est la confiance du peuple malien, parce que le peuple aspire à un changement. Tant souhaité par le Malien lambda que veut une situation où aujourd'hui nous vivons dans des situations très difficiles en termes de sécurité, en termes de bien-être, en termes de l'école, en termes de la société, en termes de l'emploi. Tout le monde souhaite que ça change.
Le déroulement du scrutin a été perturbé dans un nombre important de bureaux de vote sur les 23 000 recensés. Et maintenant, les observateurs électoraux surveillent de près le dépouillement. Les membres du pool d'observation du Mali sont toujours à pied d'œuvre. Ibrahima Sango, président du POSIM.
Dans la nouvelle loi électorale, on a introduit une disposition majeure qui est le fait que l'ensemble des bulletins de vote et le procès-verbal de dépouillement des opérations électorales, des résultats, sont signés par l'assesseur de la majorité et l'assesseur de l'opposition. Bon, même si on a noté des choses, si on a des résultats, on ne pourra pas les communiquer parce que la loi électorale dit que l'administration territoriale doit publier les résultats provisoires et puis après la Cour constitutionnelle va publier les résultats définitifs. Donc nous, on a des tendances, on a des trucs, mais on n'est pas habilité à la communiquer.
Vous voyez donc des tendances. Va-t-on vers un second tour?
On le croit.
Les observateurs notent également que les électeurs ne se sont pas beaucoup mobilisés pour accomplir leur devoir civique. Les résultats sont attendus dans le courant de cette semaine avec l'éventualité d'un second tour le 12 août prochain. De Bamako au Mali, Jacques Aristide pour VOA Afrique.
L'Union européenne a décidé hier de prolonger pour 2 ans sa mission militaire de formation en République centrafricaine. EUTM RCA est étendue donc jusqu'au 19 septembre 2020 à Bangui. Freeman Sipila.
En plus de cette prolongation, le Conseil de l'Union européenne a également modifié le mandat de la mission. Son domaine d'intervention s'étend désormais sur plusieurs volets. EUTM-RCA peut donner des conseils stratégiques non seulement au ministère de la Défense, au personnel militaire et aux forces armées centrafricaines, mais aussi au cabinet du président de la République. Cette collaboration devra se faire aussi sur la coopération entre civils et militaires, y compris au ministère de l'Intérieur. Le Conseil a débloqué une enveloppe d'environ 25,4 millions d'euros pour les coûts de EUTM-RCA qui est basée à Bangui pour la période du 20 septembre 2018 au 19 septembre 2020. Cette mission d'entraînement et de formation de l'armée centrafricaine a été lancée le 16 juillet 2016. Elle compte environ 170 personnes. Au terme de son premier mandat de 2 ans, l'EUTM a formé et entraîné plus de 3000 soldats centrafricains. Cette décision intervient au moment où plusieurs régions du nord du pays échappent au contrôle de Bangui, car morcelées par des groupes armés qui y pillent les ressources naturelles. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Les États-Unis ont suspendu les avantages commerciaux dont bénéficiaient les vêtements importés du Rwanda, répondant ainsi aux droits de douane imposés par le pays d'Afrique de l'Est sur les importations de vêtements d'occasion accusés de nuire à l'industrie textile locale. Initialement, les pays d'Afrique de l'Est étaient unis dans la lutte contre ce marché de l'occasion, mais l'alliance s'est craquelée quand le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda ont reculé devant la crainte d'être sanctionnés par Washington. Les produits affectés ne représentaient en 2017 que 3% des exportations rwandaises aux États-Unis pour une valeur de 1,3 million d'euros. Les autorités ivoiriennes ont lancé en grande pompe lundi les travaux du 4e pont d'Abidjan qui va relier le quartier populaire de Yopougon au plateau, la zone des affaires. Le pont au-dessus de la lagune Ébrier, autour duquel est constitué Abidjan, mesure 1,4 km. Il s'inscrit dans un projet de 7,2 km d'autoroute urbaine et d'échangeurs d'un coût total de 142 milliards de francs CFA qui doit permettre de désengorger le nord de la capitale économique ivoirienne en proie à des embouteillages incessants. L'appel d'offres a été remporté par une société chinoise qui doit remettre l'ouvrage terminé pour fin août 2020. L'auteur de l'attentat suicide de Manchester qui avait fait 22 morts en mai 2017 avait été évacué de Libye 3 ans auparavant par la marine britannique, a révélé aujourd'hui le quotidien Daily Mail. Salman Abedi, un Britannique d'origine libyenne, faisait partie des 110 Britanniques et leur famille évacuée, amenée à Malte en août 2014. Selon le journal, il s'est fait exploser à l'âge de 22 ans à la sortie d'un concert de la chanteuse pop américaine Ariana Grande à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, tuant 7 enfants et 15 adultes. Que cet homme ait commis une telle atrocité sur le sol britannique après avoir été sauvé de Libye est une pure trahison, selon une source gouvernementale citée par le journal. À Washington, il est 7h08.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, rencontre à la Maison-Blanche hier entre le président Donald Trump et le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte. Il a été question de politique étrangère, notamment de la Russie et de l'Iran. Nicolas Pinot nous en dit plus.
Très offensif face à la presse, le président Trump a déclaré que les sanctions américaines contre la Russie seraient maintenues dans l'état. De son côté, Giuseppe Conte s'est dit favorable à des discussions avec la Russie. Sur l'Iran, le président américain s'est dit ouvert à une rencontre avec les dirigeants iraniens quand ils veulent, sans conditions préalables. Une main tendue qui tranche avec les déclarations belliqueuses de Washington et Téhéran la semaine dernière, où par déclaration interposée, Hassan Rouhani et Donald Trump se mettaient chacun en garde contre tout provocation. Sur le plan intérieur, Donald Trump a réitéré sa menace de laisser le gouvernement fédéral fermé s'il n'obtenait pas les fonds pour la construction d'un mur de sécurité à la frontière mexicaine. Le temps presse pour les Républicains qui contrôlent la Chambre des représentants et le Sénat, mais qui pourraient perdre l'une des deux chambres du Congrès suite aux élections de mi-mandat en novembre prochain.
Et l'Iran a réagi à l'offre de pourparlers du président Trump en soulignant que le chemin menant à des discussions directes avec Washington devra inclure le retour de Washington à l'accord sur le nucléaire iranien dont s'est retiré officiellement M. Trump, le respect des droits nationaux de l'Iran et la réduction des hostilités, pour citer un conseiller du président iranien Hassan Rouhani. L'émissaire de l'ONU sur la Syrie a l'intention d'organiser début septembre à Genève une réunion avec la Russie, l'Iran et la Turquie sur la formation d'un comité constitutionnel chargé de doter la Syrie d'une nouvelle constitution, a annoncé aujourd'hui l'ONU. Pour l'émissaire de l'ONU, ce comité est un élément clé vers une résolution du conflit syrien qui a fait plus de 350 000 morts depuis mars 2011. Fin de ce journal, le prochain c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francis.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.